explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
L'Océanie, bord à bord à l'Evainé. Tu connais ?
Mais croyez-vous que je puisse regarder les paysages par le hublot ?
Sur France Inter,
j'ai des envies de voyage.
Le temps d'un bivouac !
Le temps d'un bivouac.
Je suis prêt.
Daniel Fievé.
Il y a des animaux qui voyagent parce que leur instinct les pousse à le faire. Le voyage est dans leur nature, tels les oiseaux migrateurs ou les baleines qui effectuent des allers-retours entre les eaux glacées des pôles et les mers tièdes des tropiques. Et puis, il y a des animaux qui effectuent des périples incroyables parce que des hommes l'ont décidé ainsi. De Leïka, la chienne cosmonaute, à Zarafa, la girafe offerte à Charles X, en passant par l'ours Wojciech, intégré comme soldat dans l'armée polonaise, aujourd'hui, nous partons à la découverte de ces animaux que le voyage a rendu célèbre, mais qui n'avait rien demandé.
Mes amis, je ne sais où nous allons.
Sur France Inter.
Parfait, alors si ça vous dit de faire un tour, allez-y.
Le temps d'un bivouac.
Bonjour et bienvenue dans notre bivouac. Et bonjour Jean-Philippe Noël.
Bonjour Daniel.
Vous êtes journaliste animalier et auteur de Ces animaux qui font l'histoire, paru chez Delachaux et Niestlé. Dans votre livre, vous racontez 50 aventures d'animaux célèbres et nous allons nous intéresser plus particulièrement à ceux, aux aventures qui se sont passées avec des animaux qui ont voyagé. Les auditeurs peuvent vous adresser leur message via la page de l'émission sur franceinter.fr ou notre page Facebook. Et puis en deuxième heure, nous partirons sur un brise-glace russe en compagnie de l'écrivain géographe Cédric Gras. Nous verrons comment sa passion pour la Russie l'a mené jusqu'en Antarctique. Et en toute fin d'émission, ce sera le grand retour de la famille Poussin et de leur charrette à zébus sur les routes de Madagascar depuis maintenant 3 ans. Voilà pour la feuille de route de cette émission qui est réalisée par Anne-Sophie Ladonne. Elle a été préparée par Hugo Struna et Mathieu Aoued.
Dernière journée de célébration du 40e anniversaire de la Révolution, on attend impatiemment à Moscou de connaître le sort du plus fameux petit chien du monde, Laïka, qui à bord du Spoutnik numéro 2 fut le premier être vivant à franchir les limites de l'atmosphère terrestre. Aucune indication ne peut être obtenue à ce sujet pour le moment. Aussi, seul le communiqué officiel qui contiendra prochainement, pense-t-on, des indications sur ce point permettra de savoir si le premier petit voyageur de l'espace a été ramené sain et sauf sur Terre ou si au contraire, il compte désormais au nombre des victimes de la science.
Nous étions sur la RTF en 1957. Laïka, le premier être vivant à avoir obtenu son ticket pour l'espace, si on exclut les petites bactéries et les microbes qui avaient dû voyager avec le premier Spoutnik. Alors Laïka, c'est ce chien russe, l'histoire un peu incroyable. Pourquoi ont-ils eu envie en 1957 d'envoyer ce chien dans l'espace ?
Bien, tout simplement parce qu'on est en pleine guerre froide et que c'est la naissance en fait de la guerre des étoiles, ce qui s'appellera plus tard la guerre des étoiles, que les Américains n'ont pas encore réussi à envoyer d'animaux vivants dans l'espace. Et donc les Russes, qui, comme le rappelle votre archive, fêtent le 40e anniversaire de la Révolution d'Octobre, Khrouchtchev, un mois après avoir réussi le vol de Spoutnik, ordonne à ses ingénieurs d'envoyer un animal dans l'espace. Ouais. C'est uniquement pour ennuyer et pour prouver aux Américains qu'ils sont les plus forts.
Et toujours dans cette compétition, on sait comment on a choisi ce petit chien-là plutôt qu'un autre.
Alors, on sait comment on l'a choisi tout à fait. En fait, elle a été récupérée dans les rues de Moscou. Ils ont raflé une dizaine de chiens dans les rues de Moscou. Et puis, ils ont fait passer les tests des chiens les plus calmes et qui supportaient les mieux. En fait, je pense que ces chiens sont les premiers à avoir subi les tests pour les cosmonautes, qui sont maintenant devenus une monnaie courante chez les hommes. Mais là, voilà, elle est la première des chiennes à avoir réussi brillamment son test de cosmonaute. Ouais. Et c'est donc elle, Laïka, qui va être, je dirais malheureusement pour elle, sélectionnée.
Ouais, parce que donc le 3 novembre 1957, donc sa fusée Semyorka s'arrache du sol de Baïkonour. Elle avance à quelle vitesse cette fusée qui propulse cette pauvre chienne dans l'espace ?
Elle avance à la vitesse de 28 800 km/h.
Ouais.
Ce qui est quand même
faut encaisser
le choc.
Et
puis Laïka fait, elle se trouve à 1600 km d'altitude et elle fait le tour de la Terre en 104 minutes.
Ouais, le premier chien premier être vivant, si, comme je le disais, on exclut les bactéries, à le faire. Avant, on l'avait bardé de capteurs.
Voilà, parce qu'en fait, les Russes expliquent, et ils vont expliquer pendant une semaine, qu'ils suivent heure par heure en fait l'évolution du chien et comment son organisme se comporte dans l'espace. Mmh. Et ils sont pas les seuls. La Terre entière, on va dire le monde occidental vit au rythme du bip 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 qui indique effectivement où se trouve Sputnik 2 et donc où se trouve officiellement Laika. Mmh. Il faut savoir qu'en même temps, on assiste sur Terre aux premières manifestations anti-vivisection, on va dire.
Ah oui.
Il y a même une photo que j'ai retrouvée dans un vieux Paris Match où on voit des chiens qui portent des pancartes.
Ouais.
Non, la maltraitance des chiens dans l'espace.
Ah, d'accord, donc ça émeut déjà le public de savoir qu'est-ce qu'on a été faire d'envoyer ce chien qui n'avait rien demandé.
Exactement, et je pense que même Laika va devenir plus rapide, plus célèbre en fait que l'exploit elle-même,
ouais.
Que l'exploit lui-même en fait.
Ça tourne mal à l'époque, Moscou finit par annoncer...
Alors en fait... C'est très amusant de lire les communiqués de Moscou au fur et à mesure, qui s'aperçoit en fait que le chien dépasse l'exploit technique presque.
Ouais.
Et alors ils sont très embêtés parce qu'en fait tout le monde sait, tous les ingénieurs savent que au moment de toute façon où Sputnik va pénétrer dans l'atmosphère, il va y avoir la température de l'engin sera telle que la chienne ne survivra pas.
Ouais, c'est-à-dire qu'on lui a payé un aller sans retour à Laika.
Oui,
on sait qu'elle ne reviendra jamais. Hein.
Alors. Les discours au départ sont « mais non, elle va revenir, on a pensé, vous pensez bien ». Quand les Russes s'aperçoivent qu'en fait cette chienne est importante, et enfin elle touche l'opinion, ils essaient de mentir un peu.
Ouais.
On va voir qu'ils ont beaucoup, beaucoup menti en fait.
Ouais.
Et puis petit à petit ils disent « mais non, ouais, effectivement elle va être sacrifiée, mais on va lui offrir une stèle à son honneur, etc. etc. »
C'est-à-dire que même de toute façon, on nous apprend qu'elle est... Au bout d'une semaine, on nous dit Laika est morte à l'intérieur, avant même que le Sputnik revienne.
En fait, le discours officiel quand Sputnik rentre dans l'atmosphère, c'est qu'effectivement, Laika est morte pendant le retour. Alors, pareil, ils disent qu'ils avaient donné le dernier médicament, en fait, le dernier aliment, parce qu'elle pouvait se nourrir, le dernier aliment était un aliment qui contenait quelque chose pour s'endormir, en fait.
Mm-hmm.
Et donc, ils disent qu'en fait, le chien elle s'est endormie doucement. Il raconte une belle histoire, en fait.
Ouais, il raconte une belle histoire, hein, effectivement, parce que le Sputnik 2 se consume dans l'atmosphère au retour en 1958,
ouais.
C'est ça mais bien des années après, en 2002, on va savoir, parce qu'en fait, le dossier a été classé secret défense.
Voilà, je pense que Laika est le seul chien dont on puisse dire que la mort a été classée top secret.
Ouais. Ouais. Alors évidemment, on connaît enfin la vraie histoire. Enfin, c'est ce que les Russes nous disent maintenant. En 2002, qu'est-ce qu'on nous raconte?
Et ben, en 2002, on nous apprend alors officiellement que Laika est morte en fait pendant le décollage, 6 à 7 heures, probablement de stress et de chaleur. Juste après le décollage, en fait. Et donc, elle n'a jamais fait le tour de la Terre.
Elle n'a jamais fait le tour, en tout cas pas vivante.
En tout cas pas vivante.
Elle avait un hublot?
Je ne sais pas.
Oui, d'accord. En tout cas, la première chienne à avoir voyagé dans l'espace, elle l'a fait une fois morte.
Ouais.
Après les chiens, les chats. Alors là, on remonte plus loin en arrière. Après la chienne de l'espace, les chats des mers. Pendant longtemps, sur les bateaux, on emmenait des chats. Pour quelle raison?
En fait, je pense que dès que la marine a existé, on a mis des chats dans les bateaux, dès l'Antiquité en fait, et pour une raison très très simple, c'était pour éviter la prolifération des rats,
ouais.
Parce que les rats étaient censés risquer de grignoter les cordages, et donc pour éviter leur prolifération, effectivement, il y a eu très tôt des chats dans les navires, et c'est pour ça d'ailleurs que le chat aujourd'hui sont tous issus à peu près des chats d'Afrique qui ont colonisé comme ça l'ensemble des continents.
Alors vous, il y a l'histoire d'un de ces chats qui, la plupart d'entre eux, disons-le, ils ne sont pas passés à la postérité,
non,
on ne les connaît pas.
On ne les connaît pas du tout.
Il y en a un, et cette histoire vous plaît tout particulièrement, vous teniez à la raconter, alors allons-y.
Parce que un peu une façon pour rendre hommage à ces animaux qui nous ont accompagnés dans nos conquêtes, puisqu'on est... dans une émission de voyage, et qui ont donc voyagé avec nous sans qu'on en parle jamais. Et voilà, le seul que l'histoire a retenu, mais parce qu'effectivement, son maître y était très attaché, c'est un chat qui s'appelle Trim, qui est né en fait sur un bateau dans l'océan Indien et qui va accompagner un navigateur qui s'appelle Matthew Flinder. Matthew Flinder est très peu connu de notre côté de la planète, mais beaucoup mieux côté de l'autre côté des pôles, parce que c'est lui qui est le premier à cartographier en fait le tour de l'Australie.
Ouais.
Et donc ce chat va l'accompagner dans tous ses voyages pendant 3 ans. Il va même évidemment faire naufrage et il va être récupéré. Contrairement au chat qui se trouvait dans la Bounty, qui lui a disparu au moment du naufrage, donc
ouais.
On pense qu'il a été dévoré, Trim ne va pas être dévoré pendant ces périodes difficiles pendant les naufrages, on n'a rien à manger. Il va reprendre les mers. Et malheureusement pour Flinders va se faire arrêter sur l'île de France à La Réunion parce que à l'époque il voyage, il s'arrête là parce que son bateau a besoin de réparation et il est jeté en prison parce qu'il y a une guerre, les guerres napoléoniennes ont commencé et Flinders est jeté en prison et le chat va disparaître à ce moment-là. Et ce qui est beau dans cette histoire, c'est que Flinders va tout écrire pendant 6 ans, il a le temps, il va faire de ses voyages, il va cartographier l'Australie. Quand il est en prison, c'est lui qui va proposer même le nom d'Australie pour le continent. Et puis il va consacrer les 15 dernières pages à ce chat qu'il a accompagné, pas très longtemps, enfin 3 ans, hein, c'est sur des périodes assez courtes, 3-4 ans. Mais voilà, et il rend hommage comme ça à tous ces chats qui ont accompagné nos...
Il rend hommage à Trim et récemment, une statue, hein, je crois, a été érigée de ce grand marin avec à ses pieds son chat Trim.
Exactement, à Londres. Matthew Flinders était britannique et que maintenant on ne représente plus Trim. On ne représente plus Matthew Flinders sans son célèbre chat.
C'est pas facile à dire. Chat Trim. Et du coup, on a une très belle photo dans votre livre où on voit le prince William qui regarde ce chat intrigué.
Exactement. Et c'est ce qui m'a en même temps amusé quand j'ai refait tous ces textes sur lesquels je travaille depuis longtemps et certains sujets étaient il y avait très peu de choses en fait. Ouais. Et Trim, par exemple, je connaissais l'histoire de Trim, mais en réétudiant pour le livre, j'ai découvert qu'effectivement, en 2014, il avait désormais sa statue. Mmh. Et je trouve que ça parle effectivement de l'importance maintenant que prennent les animaux dans notre histoire. Ouais. C'était un peu le but du livre aussi, replacer les animaux dans ce contexte historique où ils ont longtemps été oubliés.
Vous avez eu du mal à les trouver, ces 50 histoires d'animaux, ou au contraire, vous avez dû faire du tri et il y en avait plus que ça?
J'ai commencé il y a 10 ans à raconter ces histoires pour les enfants dans le magazine 30 millions d'amis. Ouais. Quand j'ai commencé, je me suis dit, je vais faire ça pendant 2-3 ans, je connaissais les principaux, et puis au bout de 2-3 ans, je passerai à une autre rubrique. C'est-à-dire qu'Internet nous offre une fenêtre sur le monde qui est considérable, et en fait, j'ai découvert qu'il y en avait plein. Il y en avait certaines de notre côté de l'Occident que je ne connaissais pas, mais aussi les New-Zélandais ont leurs histoires, les Africains ont leurs histoires, l'Australie a ses histoires. Et Internet permet effectivement de remonter. Et comme je vous l'ai dit aujourd'hui, les animaux rentrent de plus en plus dans l'histoire générale de l'humain. Donc on va rechercher en fait les animaux de plus en plus.
Eh bien, nous allons en raconter quelques-unes de ces très belles histoires. Nous partons à la découverte de ces animaux que l'homme a fait voyager et qui sont devenus célèbres. À venir dans la grande ménagerie du temps d'un bivouac, la girafe Zarafa, offerte à Charles X, les éléphants d'Hannibal et même un ours intégré comme soldat dans l'armée polonaise. Nous sommes en direct et pour nous adresser un message ou une question, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr, le hashtag bivouacfi sur Twitter ou la page Facebook du temps d'un bivouac.
become a caveman, a bed, dead, brain dead caveman. I stare at all the photos and the texts that you have sent me. I curl up with the dogs, I think they're starting to resent me. I wanna go to bed, but the bed is just
How can you leave me on my own? C'était The Divine Comedy sur France Inter, le temps d'un bivouac. On s'intéresse aux animaux célèbres qui ont voyagé en compagnie de alors, ils n'ont pas voyagé en compagnie de Jean-Philippe Noël, mais c'est nous qui sommes en compagnie de Jean-Philippe Noël, qui est auteur de ces animaux qui font l'histoire chez Delachaux et Niestlé. Et parmi ces bêtes, il y en a une que l'on a fait venir de très loin, bien que ce ne soit pas forcément une mince affaire de la faire voyager, comme en atteste cette lettre reçue à Marseille.
Préfecture des Bouches-du-Rhône, secrétariat général, Marseille, le 28 octobre 1826. Messieurs les intendants de la santé publique à Marseille, je suis informé par monsieur l'agent des affaires étrangères que sur le brigantin Les Deux Frères, capitaine Manara, il a été embarqué en Égypte pour la ménagerie du roi, une girafe, trois vaches qui fournissent le lait pour sa nourriture, et deux antilopes mâles et femelles. Ce brigantin se trouvant actuellement en quarantaine, je dois vous recommander de donner des ordres pour que ces animaux reçoivent tous les soins nécessaires et que la girafe surtout soit placée dans un logement d'une température convenable.
Tant de précautions pour transporter cette girafe et puis tout l'attirail et tous les autres animaux autour pour pouvoir la nourrir. Jean-Philippe Noël, nous sommes donc dans les années 1820. Pourquoi on entreprend ce long voyage pour cette pauvre girafe ?
Parce que c'est un cadeau. C'est un cadeau d'un sultan pour un roi. C'est un cadeau destiné à Charles X, la fameuse girafe de Charles X. Et donc, quand vous devez transporter un tel cadeau, vous n'avez qu'une envie, c'est qu'elle arrive entière. Et vous devez donc prendre toutes les précautions, et toutes les précautions seront prises effectivement pour que celle qu'on appellera par la suite Zarafa arrive vivante et bien vivante au Jardin des Plantes à Paris.
Alors avant de la transporter, il a fallu la capturer. Je crois qu'on a tué sa mère girafe. Le début de l'histoire n'est pas très glorieux, on le raconte souvent peu.
Oui, d'abord parce qu'en fait, on n'a pas d'écrit. Ouais. Nous, on connaît Zarafa à partir du moment, je dirais, où elle rentre sur le sol français. Avant, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais on sait à peu près comment se passait ce genre de commerce. Donc, effectivement, on tuait généralement la mère, qui servait de nourriture aux populations locales, et on récupérait les plus jeunes des animaux, qui étaient ensuite convoyés à leur destinataire. Leur destinataire, qui souvent étaient des seigneurs locaux. C'est effectivement exceptionnel qu'une girafe entreprennent un voyage outre-Méditerranée.
Oui, c'est vraiment très rare. À l'époque, en France, peu de gens ont déjà vu une girafe quand elle arrive.
Je pense que personne n'a jamais vu de girafe à l'époque. Ouais.
Elle arrive le 31 octobre 1826, elle pose le pied en France, elle arrive par Marseille, on l'a compris par cette lettre que l'on vient d'entendre. À cette époque, qu'est-ce qu'on sait exactement des girafes dans la population ?
Rien. Il y a même une très grande peur à Marseille, parce qu'elle a été débarquée de nuit. Elle est d'abord restée une semaine sur le brigantin dont on parle, parce qu'en fait, il n'y avait pas de choses pour, enfin, il n'y avait pas de box pour l'accueillir. Et en même temps, on décide donc de la mettre au lazaret, c'est-à-dire qu'on décide de la mettre en quarantaine. Mais elle va rentrer de nuit. Et les gens imaginent, ils ont vu un truc immense arriver. Ouais. On dit même qu'elle est recouverte d'un tissu. Et donc, les gens ont très peur. Ils ne savent pas du tout ce que c'est. Et ça jase pas mal dans Marseille à l'époque.
On parle d'un monstre.
On parle d'un monstre,
se demande ce qui vient d'arriver par bateau à Marseille. Si bien qu'on peut imaginer la réaction de Charles X quand on lui offre sa girafe.
Allons, monsieur de Saint-Hilaire, ne nous faites pas attendre plus longtemps.
Voilà, votre majesté. Cadeau du pacha d'Égypte.
Magnifique, splendide, merveilleux. Saint-Hilaire, qu'est-ce que c'est que ce truc ?
Une girafa camélopardalis.
Une...
Je veux dire, une girafe. Votre Majesté.
Une girafe ? Oh, mais quelle belle girafe !
Vive la girafe du roi !
Extrait du dessin animé Zarafa. On n'y était pas, mais ça s'est peut-être passé comme ça.
Probablement passé comme ça, oui.
Jean-Philippe Noël.
Ce qu'il faut dire, effectivement, c'est qu'entre Marseille et le moment où elle arrive à Paris, elle reste à peu près 6 mois à Marseille, le temps quand même de se refaire un peu une santé, parce qu'elle a quand même fait une grande traversée en Méditerranée. Et puis, dès les beaux jours, au mois de mai, on décide de la faire remonter. Oui. Et on ne sait pas comment. Est-ce qu'on la fait remonter via les fleuves ou est-ce qu'on la fait remonter à pied ? Et on décide de lui faire traverser la France à pied. Et Zarafa va traverser toute la France, c'est-à-dire 700 kilomètres à peu près entre Marseille et Paris, où les gens, parce que là on a les réactions du roi, mais il faut aussi imaginer les gens, les paysans, qui voient débarquer ce qu'on voit un peu étonnant, où elle suit en fait en permanence 3 vaches. Qui la rassure. Donc elle traverse comme ça la France et puis elle s'arrête dans les villes importantes. À Lyon, d'abord à Aix, ensuite à Lyon, on fait défiler la girafe dans la ville. Et c'est là où on s'aperçoit qu'on a affaire à une girafe qui est d'un tempérament extraordinaire. Elle est totalement zen. Il faut savoir qu'en fait, elles sont parties à deux, ouais. Les girafes. L'autre était destinée au roi d'Angleterre et elle n'a pas survécu. Celle-ci avait un tempérament parfaitement zen qui lui a permis de supporter toutes ces épreuves étonnantes. Et il y a juste une fois, en fait, à Lyon, où elle a été prise de panique. Et à partir de ce moment-là, Geoffroy Saint-Hilaire va décider, plutôt pour l'amener en bonne santé au roi, de prendre des petites routes jusqu'à Paris, où elle va arriver, comme on l'a entendu, face au roi, où elle va quand même vivre près de 20 ans.
Ouais. Elle va déclencher une véritable girafomania, hein. C'est le mot qui a été employé.
Et c'est le mot qui est toujours employé, effectivement, pour raconter, pendant les 6 mois qui ont suivi son arrivée, il y a d'abord les milliers de personnes qui venaient la voir chaque jour. Et puis, la mode est devenue à la girafe. Alors, on se coiffait à la girafe, on mangeait à la girafe. Tous les instruments de table, de vaisselle étaient décorés par la girafe. Il y avait des petites scènes satiriques autour de la girafe qui se moquaient aussi de Charles X. Ouais. Et effectivement, pendant 6 mois, 8 mois, il va y avoir cette folie de la girafe à Paris.
Et partout où Zarafa passe, elle suscite l'intérêt. Là, c'est un document un petit peu plus authentique, on va dire, puisque c'est Geoffroy Saint-Hilaire, le naturaliste, qui le raconte.
À chacune de nos arrivées dans des villes de quelque importance, il était nécessaire de défendre la girafe des méfaits d'une indiscrète curiosité. J'ai dû m'opposer à des foules qui se précipitaient dans le plus grand tumulte vers l'animal. Tout ceci était à recommencer chaque jour. La girafe est arrivée à Paris le 30 juin, à 5h30 du soir. Depuis, la foule s'est empressée tous les jours pour voir ce superbe animal qu'on a logé dans la grande orangerie.
Geoffroy Saint-Hilaire, naturaliste, à l'époque de Charles X, on l'entendait dans le précédent extrait, c'est lui qui présentait la girafe à Charles X.
C'est même lui qui est allé la chercher à Marseille, ouais. Sur l'ordre du roi.
Lourde responsabilité.
Énorme, très très importante. Et c'est pour ça d'ailleurs que le roi a décidé d'envoyer, alors il ne devait pas y en avoir beaucoup, mais celui qu'il considérait être le meilleur connaisseur d'un animal aussi exotique et aussi étrange. Et il n'est pas jeune à l'époque, Geoffroy Saint-Hilaire. Il essaie même d'envoyer son fils, parce qu'il dit que c'est compliqué. Ouais. Et le roi dit non, vous y allez, mon ami. Oui. Et Geoffroy Saint-Hilaire va suivre la girafe dans son carrosse personnel. Et ça va être une épreuve très, très fatigante pour lui.
Et comment sait-il ce qu'il faut lui donner à manger ? Comment il faut la traiter pour qu'elle survive, cette girafe ?
Alors, en fait, elle est accompagnée de cornac. Non, alors on dit cornac pour les éléphants. Je ne sais pas si on peut le dire pour les girafes, mais on va le dire pour les girafes. De cornac égyptiens qui, eux, connaissent l'alimentation et qui vont l'apprendre à se nourrir. Elle se nourrit d'ailleurs assez bien toute seule. La base, en fait, elle va boire beaucoup de lait. Elle va nourrir, je crois que c'est 25 litres de lait par jour au début. Elle va être nourrie de grains de maïs. Et puis, elle va se choisir elle-même au fur et à mesure de son avancée les arbres qui lui plairont de grignoter de ci et de là.
Et comme vous le disiez, elle va vivre longtemps, cette girafe.
Oui, ce qui est pareil, exceptionnel, hein. À une époque où on sait pas, oui, à une époque où on sait pas très bien garder les animaux. Celle-ci va accepter tout, mais avec une douceur et une paisibilité. Étonnant.
Ouais, l'histoire de Zarafa, la girafe. Il y en a eu d'autres, des cadeaux un peu encombrants, des rhinocéros également. Vous racontez des histoires de rhinocéros dans votre livre.
Alors oui, il y a surtout l'histoire de Clara, et je dirais qu'elle a un parallèle avec Zarafa, c'est qu'elle-même va vivre une vie totalement étonnante. Alors elle va passer sa vie en voyage, ouais. Et elle va vivre aussi, pareil, une vingtaine d'années dans des conditions absolument étonnantes. En fait, cet rhinocéros indien est récupéré par un marin hollandais qui arrive en Hollande, qui voit l'intérêt qu'il suscite, qui lui construit un chariot et qui va faire le tour de toutes les capitales d'Europe pendant 20 ans.
Ouais, donc là, le rhinocéros va voyager encore plus que Zarafa.
Il va passer sa vie en voyage. Ouais. Et il va aller, alors d'abord on commence par l'Europe du Nord, où à chaque fois qu'il va dans une capitale ou dans une ville importante, c'est l'émeute. Et puis où il doit aussi rencontrer toutes les têtes couronnées qui viennent le voir. Il fait toutes les capitales d'Europe. Il vient en France, où Louis XV trouve cet animal extraordinaire, veut absolument acheter Clara. Est-ce que le marché ne se fera pas? Est-ce qu'on a, parce que les finances de l'État ne le permettent pas? Est-ce que le propriétaire se dit qu'il a un trop bon filon? Quoi qu'il en soit, elle continue. Elle va aller jusqu'en Italie, en fait. En Italie, où il y a un tableau célèbre de Longhi qui la représente. Elle avait déjà été peinte par Jean-Baptiste Oudry, qui est le peintre animalier de Louis XV. Et c'est d'ailleurs ces représentations qui vont servir aux encyclopédistes et à Buffon dans son Encyclopédia Universalis.
Oui, parce que là encore, ce sont des animaux que l'on n'a jamais vus et que l'on... Faut se mettre dans la tête de ces gens qui voient débarquer des animaux improbables, un peu comme si on nous sortait un T-Rex qui marche dans la rue.
Hein. Tout à fait. Oui, tout à fait. On dit, alors je ne sais pas si c'est vrai, parce que on dit que c'est le cinquième rhinocéros venu en Europe. Hormis tous ceux, parce qu'il y a quand même tous ceux que les Romains avaient apporté dans les arènes, parce que les Romains ont beaucoup apporté des animaux dans les arènes, et puis après, à partir du Moyen-Âge, en fait, on oublie complètement les animaux exotiques, donc il y a toute une mythologie qui se crée autour. Ouais. Il y aura eu, au XVIe siècle, un rhinocéros qui s'appelait Ulysse, qui était en Italie, qui est le rhinocéros qui a représenté Dürer, mais bon, même si ça touche beaucoup de monde, déjà un enfant, quand il voit un rhinocéros aujourd'hui, ça l'étonne. Alors, vous imaginez effectivement, au XVe siècle, au cours du siècle, il y en a eu un ou deux qui sont passés par hasard et qui ont été vus de toute façon par une petite population.
Et du coup, Louis XV, qui avait été fasciné par ce rhino qu'il n'a pas pu acquérir, il a fini par en avoir un.
Il a fini effectivement par avoir un autre rhinocéros 10 ans après. Pareil, un rhinocéros indien, 10 ans après, qui a vécu une dizaine d'années dans la ménagerie du palais de...
C'était un cadeau ou cette fois-ci
C'était un cadeau. Mais un cadeau qu'il avait fortement demandé.
Oui, voilà, d'accord.
Et qui est toujours empaillé, qu'on peut voir, je crois, au Muséum d'Histoire Naturelle.
Ah oui, on peut le voir, le public peut le voir.
Le public peut le voir, je suis sûr qu'il peut le voir.
Nous poursuivons notre bestiaire historique des animaux voyageurs célèbres avec, dans un instant, des éléphants et même un ours soldat. Vous écoutez Le Temps d'un Bivouac sur France Inter.
Jamais, ombre du trépas, cher bourgeon de mer. L'effet du hasard,
l'effet du hasard,
ne le retiendra,
ne le retiendra.
Parfois trop ardent,
parfois trop ardent.
L'éternel été,
l'éternel été.
C'était Éternel été, Ézéchiel Paillès sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Je vous le répète, c'est seulement un fou ou un imbécile qui peut tenter de traverser les Alpes avec des milliers de soldats et un troupeau d'éléphants.
Ouais. Écoutez, écoutez.
Silence.
Hannibal est en train de passer les Alpes.
Nos garnisons sont partout en fuite. Rutilius connaît bien ces montagnes, il retardera la marche du Carthaginois.
Extrait du film Carthage en flammes. Alors effectivement, les éléphants d'Hannibal. On a tous entendu parler des éléphants d'Hannibal, mais comme vous le dites dans votre livre, si on demande de raconter l'histoire, ça devient vite un petit peu plus approximatif. Alors on va prendre le temps de la redécouvrir, cette histoire des éléphants d'Hannibal.
Alors d'abord, il faut la replacer dans son contexte historique.
Oui.
On est au 3e siècle avant Jésus-Christ. Rome n'est pas encore l'empire que l'on connaîtra plus tard, mais tend à prendre la main sur toute la Méditerranée. En face de lui, sur les côtes tunisiennes, se trouve l'autre grande puissance locale, c'est Carthage. Et donc Rome et Carthage sont en guerre permanente, qu'on va appeler plus tard les guerres puniques. Un jeune général carthaginois décide de prendre Rome par le nord, à revers, on pourrait dire. Mais pour cela, il doit donc emmener son armée via l'Espagne, longer
les Pyrénées,
traverser ce qu'on appelle vaguement le Languedoc, enfin donc la France, traverser le Rhône et surtout se retrouver face à une montagne que l'on connaît bien, qui sont les Alpes. Mmh. Alors, cette armée, elle est composée, on parle de 50 000 fantassins, de 9 000 cavaliers, donc c'est vraiment important, et puis de 37 éléphants.
Il y a des éléphants dans l'armée. Ça, c'est pourquoi ? C'est pour le folklore ou ça sert de char d'assaut à l'époque ? Qu'est-ce qu'on fait avec ces...
Ça sert de char d'assaut.
Ouais.
C'est pas le folklore. Les éléphants sont des animaux à l'époque très peu connus, et donc ça sert effectivement de char d'assaut puis d'impression. C'est-à-dire quand les chevaux, ne serait-ce que pour les chevaux qui n'avaient jamais vu d'éléphants, se trouvent face à ces monstres, il y a une véritable panique qui se développe et ils savent pas très bien comment manager leurs chevaux et comment battre ces éléphants. En même temps, les éléphants sont des animaux fragiles. C'est-à-dire que les Romains vont très vite apprendre, en se servant de cimeters, c'est-à-dire de longs sabres, à couper les tendons des pattes des éléphants. Donc, c'est plus le côté impression au départ. Mmh. Après, très vite, ça va devenir un poids, parce qu'en fait, si on effraie les éléphants, ils se retournent même, ils peuvent même devenir dangereux pour l'armée.
Oui, c'est ça. Parce que ils combattent. Ils n'ont pas forcément bien en tête qui
ils savent pas du tout qui est bon, qui est méchant. Un éléphant pris de panique est difficilement gérable.
Ouais.
Mais quoi qu'il en soit,
ils entreprennent ce long voyage,
ils
donc Espagne, longer les Pyrénées. Et puis, ce qui paraît absolument infaisable avec des éléphants, c'est qu'ils collent à 2000 mètres dans les Alpes.
On peut même dire presque 3000, effectivement.
Ouais.
Et ils le font. Et on sait qu'ils le font, on sait qu'ils le passent, parce que un historien de l'époque qui s'appelle Polybe va décrire en fait toutes les guerres puniques. Et il n'est pas exactement contemporain, mais il est très récent par rapport à Hannibal. Et il va même interroger des gens qui ont fait la guerre. Et il va donc expliquer que Hannibal part d'un point et va de l'autre côté des Alpes. Et puis il dit que pour pas encombrer sa lecture, il veut pas donner trop de détails géographiques. Pour pas embêter ses lecteurs.
Oui, alors que c'est ce qui nous embête de pas avoir les détails géographiques aujourd'hui.
Et depuis 2000 ans, on se demande par où les éléphants d'Hannibal sont passés, quel col ils ont entrepris, ils ont pris pour pouvoir franchir ces fameuses Alpes. Alors, tous les cols ont été testés, si je peux dire. On peut parler du Petit Saint-Bernard, de la Vallée d'Arc ou de la Haute Durance. Et pour vous dire que c'est toujours un sujet d'actualité, il y a une équipe de chercheurs en 2016 qui a trouvé un site où il y avait du crottin de cheval fossilisé en très grand nombre dont la datation correspondrait à peu près au passage de celui de...
Mais il aurait mieux valu trouver du crottin d'éléphant.
Seulement 37 éléphants, ça ne fait pas beaucoup de crottins.
Eh oui.
9000 chevaux, ça marque plus le territoire.
On est vraiment sûr que ces 37 éléphants ont survécu à leur traversée des Alpes ?
Non, on n'en sait pas sûr du tout. On ne sait pas du tout. Vous avez toutes les versions. Vous avez la version des 37 éléphants qui sont morts. Vous avez la version d'une partie qui a réussi. On dit rarement qu'ils sont tous arrivés de l'autre côté, en revanche. Mais effectivement, on ne sait pas combien d'éléphants ont survécu à cette traversée. Juste pour préciser, si c'est bien le col de la traversette, comme le supputent les savants, il est à 2900 mètres. Donc les éléphants ont traversé la neige, ont traversé dans la neige.
Ouais. Ce qui semble possible pour des éléphants ?
Ce qui semble pas impossible, mais ce qui est quand même très difficile. Et puis après, tout dépend du temps dans lequel ils sont restés, s'il y a eu des stations trop longues, c'est très difficile. Ça dépend vraiment des conditions climatiques au moment où ils sont passés.
Alors on l'a bien compris, si Hannibal prend cette stratégie, c'est pour surprendre son adversaire qui ne s'attend pas à le voir débarquer.
Il n'y croit pas du tout.
Depuis le nord de l'Italie, parce qu'il considère que c'est trop compliqué de passer par là. Donc il se dit, je vais le faire, il ne m'attend pas à cet endroit. Est-ce qu'il va gagner ?
Oui.
Est-ce que sa ruse va marcher ?
Sa ruse va marcher, mais sa ruse va marcher pas tant pour les éléphants que parce que Hannibal est considéré comme l'un des plus grands stratèges de son temps et qu'il va gagner. Et pendant 10 ans, il va aller de victoire en victoire. Il va en profiter d'ailleurs pour faire revenir des éléphants, mais cette fois par une voie plus rapide, par la Méditerranée. Et il va effectivement gagner, mais je crois que c'est plus là ces compétences de stratège qui vont le faire gagner.
Ouais.
Mais pour revenir, les éléphants, effectivement, les Romains vont très vite aussi savoir les combattre.
Ouais. Et il va d'ailleurs, je crois, plus tard réutiliser des éléphants et ça marchera pas du tout.
Oui, effectivement,
on va finir par abandonner cette idée.
Voilà, c'est ce que je vous disais en fait, c'est que les Romains à force vont comprendre comment. Comment combattre les éléphants et en leur coupant les trompes, en leur coupant les jambes avec d'immenses cimetières. Et puis, on leur a envoyé des cochons brûlés contre les éléphants qui effectivement avaient très peur du feu et donc ils les faisaient fuir en fait. Où on faisait beaucoup de vacarme. Les Romains vont apprendre à combattre ces éléphants en fait.
Décidément, ces guerres entre hommes étaient particulièrement dures à vivre pour les animaux qui n'avaient rien demandé, qui se retrouvaient.
Les guerres ont toujours été très dures à vivre pour les animaux. On n'aurait pas fait aucune guerre sans animaux.
Hein. Ouais.
On ne se passe d'animaux dans nos guerres pratiquement que depuis la Seconde Guerre mondiale. Je crois que c'est 8 millions de chevaux qui sont restés sur le terrain pour la Première Guerre mondiale.
Ouais, l'homme s'est servi à plusieurs reprises des animaux pour partir à la guerre. Et il y a cette histoire incroyable de l'ours Vorchtek. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des chevaux qui ont participé au combat. Parfois, on a même pris des ours pour soldats, comme si un ours pouvait nous apprendre à nous battre.
Hé, la minute. On ne se permet pas de parler si fort quand on est aussi petit.
Oh, je suis bien assez grand.
Quelle pitié. Écoute-moi, tu as tout à apprendre, fils. Le vieux Balou va te montrer comment se battent les ours. Ah ah ! Et maintenant, défends-toi, petit. D'abord, sois très souple, décontracté. Ensuite, balance-toi, c'est ça. Et fais un terrible grognement d'ours. Genre quoi la faute ? Oh, misère. Mais je t'ai parlé d'un grognement de gros ours. Allez, vas-y, un gros qui te semble des dribbles.
Comme ça ?
Si Balou du livre de la jungle n'a pas existé, l'ours Vojtěch, lui, a bel et bien existé, au point d'être intégré dans l'armée polonaise. Comment un truc comme ça a pu arriver ? C'est récent en plus, hein, c'est pas une histoire, là, on n'est pas trois siècles avant Jésus-Christ.
On est lors de la Seconde Guerre mondiale, en fait, en 1942, l'armée polonaise, une partie de ce qu'on appelle le deuxième corps de l'armée polonaise, qui est dirigé par le commandant Anders, est à ce moment-là en Iran. Elle attend de savoir où est-ce qu'elle va aller se battre. Et les soldats sont là dans l'attente, ils s'ennuient un peu et ils voient passer un jeune gamin qui traîne un ourson. Pour s'occuper, parce que aussi, il y a toujours eu des mascottes avec les soldats. Ils achètent pour 2 francs 6 sous l'ourson. Et puis, l'ourson va grandir avec eux. Et ils vont rester assez longtemps en Iran. Et l'ourson va devenir un jeune animal. Et puis, cette armée polonaise va enfin avoir son affectation. Ils sont demandés sur le front italien pour aller délivrer Rome. Ils sont en Iran, il faut qu'ils passent par l'Égypte et par Alexandrie pour prendre un bateau.
Même avant cela, je crois qu'il leur rend quelques services. Il fait fuir à un moment un voleur qui passe, qui essaye de leur chaparder. Évidemment, le voleur se retrouve face à l'ours.
Voilà, vous imaginez, vous allez chaparder un peu de nourriture et vous vous trouvez face à un ours imposant qui gueule et qui n'a pas peur et qui est un animal plutôt en bonne santé. Effectivement, ça a été assez radical. On n'a pas revu le voleur en question.
Donc voilà, les soldats se mettent à lui être reconnaissants des services qu'il leur apporte.
Et puis on peut voir les images. Hein, ils jouent avec cet ours, c'est totalement intégré. Vojtek, ça veut dire, je crois que c'est le soldat qui sourit.
Ouais.
Donc il est vraiment intégré et il se bat, il passe, ils font du corps à corps avec cet ours qui les blesse jamais. C'est quand même assez étonnant, mais aucun des soldats n'a été blessé par cet ours, alors qu'ils font vraiment des batailles. Donc, qu'il en soit.
Ils l'emmènent avec eux.
Ils l'emmènent avec eux, et ils doivent prendre un bateau anglais. Et les Britanniques ne rigolent pas. Ils veulent bien éventuellement prendre un singe, un chien comme mascotte, un ours, il n'en est pas question. Le régiment, les soldats sont tellement attachés à leur ours que le capitaine Anders, le commandant Anders, décide d'intégrer l'ours, effectivement, en lui donnant des papiers, en lui donnant un grade et en l'intégrant complètement comme un soldat. Et c'est comme ça que l'ours Vojtek devient un soldat à part entière et en tant que soldat peut embarquer avec ses compagnons de régiment direction l'Italie. Et bon, il va donc y avoir cette bataille terrible pour délivrer Rome à laquelle vont participer les Polonais. Et Vojtek va servir en fait à transporter les obus. On va l'atteler. Et il va donc véritablement être sur le front pendant toute la guerre.
Donc, ça n'est pas qu'une mascotte. Il participe à l'effort de guerre.
À l'effort de guerre, à tel point qu'en fait, le régiment, après la guerre, va le prendre comme emblème. Et sur tous les uniformes, on voit un ours qui transporte un obus.
Ouais. Ça correspond donc à une réalité de terrain. Cet ours a effectivement transporté.
Parfois, on s'étonne. Effectivement, ce n'est pas une lubie d'avoir fait un ours.
Ouais. Et qu'est-ce qu'il est devenu après la guerre, Vojtek?
Alors, en fait, Vojtek, avec son régiment, ils ont été démobilisés. Et en attente de savoir ce qu'on allait faire des différents régiments, il est placé en Écosse. Et il va malheureusement, tristement, finir au zoo d'Édimbourg parce que les autorités polonaises ne voudront jamais le réintégrer en fait et le faire revenir en Pologne, bien que ça ait été demandé par toute l'armée et par Anders. Il n'en a jamais été question et donc l'ours va tristement finir un peu esselé dans ce un peu triste zoo d'Édimbourg.
Donc son statut de soldat ne l'a pas protégé jusqu'au bout. Hein. Il a fini dans un zoo.
De toute façon, il aurait fini dans un zoo.
Oui, de toute façon. Quand même, il a été réhabilité, des statues ont été érigées à la gloire. Alors, ce qui est ours.
Oui, ce qui est très amusant, c'est qu'en fait, Vojtek mort en 63, je dirais, dans l'anonymat le plus sombre, le plus triste, et qu'à partir de 2010, il va y avoir, et en Écosse et en Pologne, un nouvel intérêt pour cet animal, un petit documentaire, quelques articles de journaux, et puis un livre, et puis une relation entre ces deux villes, entre les deux capitales, autour de cet ours, qui vont chacune, à peu près à un an de différence, élever une statue en l'honneur de cet ours qui devient maintenant un personnage important, mais qui devient un véritable personnage de l'histoire.
C'est ça, qui acquiert une certaine célébrité. Allez, suite et fin de nos histoires d'animaux en compagnie de Jean-Philippe Noël, auteur de ces animaux qui font l'histoire, dans un instant, dans le temps d'un bivouac, sur France Inter.
Your throat if you move on me. I'm sovereign, 'cause I'm the king of the dogs. Hold out life, we'll pull you for the answer. I don't even own a pair of pants. I'm a dancer, baby. I can smell the things that you cannot smell. I'm deadly. I'm the king of the dogs.
King of the Dogs, c'était Iggy Pop sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Je sais pourquoi Bucéphale est aussi nerveux.
Pourquoi ? Attends !
Il n'a pas vu que j'avais assez de juments rebelles ? Que veux-tu que je fasse d'un étalon récalcitrant ?
Père ! Je saurai le monter.
Ne sois pas aussi vantard. Aucun cavalier ne le domine et toi, tu crois y arriver ?
Je t'en prie, laisse-moi essayer. Si je n'y arrive pas, père, je rembourserai ce qu'il a coûté.
Bien, comme tu voudras. Je t'en offre 6 talents. Je ne voudrais pas que mon fils s'endette pour de nombreuses années.
Ne crains rien, Bucéphale. J'ai compris que tu avais peur de ton ombre, mais je suis là. Tourne-toi. Tout doux.
L'histoire de Bucéphale et d'Alexandre le Grand, qui était encore petit au moment où il a réussi à monter sur ce cheval. C'est une histoire aussi... alors après, ils ont un peu conquis le monde, ou en tout cas du territoire, lui et son cheval, Jean-Philippe Noël.
Ils sont effectivement allés très très loin, puisqu'ils sont allés jusqu'aux portes de l'Inde, après avoir conquis l'Égypte, battu Darius en Perse, et traversé donc tout l'Orient. Mm-hmm. Effectivement, ils sont allés très loin. Quand ils se rencontrent, Alexandre a 15 ans, et l'histoire veut que Bucéphale ait aussi 15 ans, ce qui pose un problème.
Oui, parce qu'à cet âge-là, un cheval, c'est plus tellement fringant. Hein.
On ne part, voilà. Si, d'autant plus que s'il n'a jamais été dressé, vous n'allez pas payer un cheval très cher, parce qu'on parle de 6 talents, ailleurs on parle de 13 talents, quoi qu'il en soit. Son père, Philippe II, l'a payé très cher pour un cheval immontable, âgé de 15 ans. Un mystère quand même. D'accord. Il y a d'autant plus un mystère que quand Alexandre part faire ses conquêtes, il a 50 plus. Donc il a 20 ans. Ce qui veut dire que Bucéphale a 20 ans. C'est-à-dire qu'Alexandre monte un vieux cheval pour aller conquérir le monde. C'est un peu compliqué. Aye. Mais en tout cas, les historiens le racontent comme tel. Et on sait que Bucéphale est allé manifestement jusqu'aux portes de l'Inde, puisqu'il est allé au Pakistan où il est mort. Soit pendant une guerre, soit de vieillesse. Il y avait un moment où ça devait arriver. Il serait mort de vieillesse. Et Alexandre a installé son tombeau et une ville qui s'appellera Bucéphalia, qui aujourd'hui s'appelle Phalia.
Donc, il y a une part de légende dans cette histoire. On a romancé, il y a eu plusieurs chevaux et on leur a donné le même nom.
Il y a probablement une part de légende pour faire en fait un parallèle entre l'homme, le cheval et la conquête. Ouais. Ce qui marchera très très bien, puisque en fait, à partir d'Alexandre, tous les grands... conquérants, pas que grands d'ailleurs, tous les hommes, et même jusqu'aux hommes politiques, j'ai envie de dire, vont à un moment ou à un autre se représenter à cheval. Mmh. Alexandre et Bucéphale représentent en fait la puissance en avant.
Mmh. Alors, on a reçu plusieurs messages sur la boîte de l'émission sur franceinter.fr et sur la page Facebook du temps d'un bivouac. Apparemment, ces animaux qui voyagent pour l'homme ou à cause de l'homme ont inspiré nos auditeurs. Il y a Monique qui nous dit « Il existe à Bruxelles une statue aux pigeons voyageurs en honneur de ces animaux qui furent de précieux porteurs de messages durant la Première Guerre mondiale. » Est-ce que ça vous inspire quelque chose, ces animaux voyageurs, ces pigeons voyageurs de Monique ?
Alors, effectivement, les pigeons voyageurs ont rendu de fiers services. On parlait tout à l'heure des animaux pendant la guerre. Les pigeons, évidemment, comme le dit si bien Monique, portaient de très nombreux messages. Le plus célèbre de nos pigeons voyageurs s'appelle Vaillant, qui effectivement était le dernier pigeon qui, du fort de Vaux, pendant la Première Guerre mondiale, devait demander de l'aide pour sauver le fort. Il arrivera malheureusement trop tard, mais il arrivera vivant. Pour la petite histoire, Vaillant est aujourd'hui un pigeon, il est aujourd'hui empaillé, et Vaillant aurait dû s'appeler Vaillante.
Ah!
Parce que c'était une femelle et qu'elle a vécu 29 ans.
Mmh. On dit quoi ? Pigeonne alors dans ce cas-là ?
Pigeonne.
Gabrielle vous demande qu'en est-il de Stevenson et de son âne ? Et puis elle vous parle aussi de Guirec Soudé et sa poule qui traversèrent le Groenland à la voile.
Alors effectivement, il y a toute une cohorte de voyageurs qui sont partis alors, avec des animaux plus ou moins surprenants. On parlait des chats tout à l'heure qui accompagnaient les marins. On parle d'une poule manifestement sur un bateau, et puis il y a le célèbre Stevenson qui est parti, alors pas très longtemps, hein, quelques jours avec Modestine.
Ouais, son âne.
Alors qui n'est pas son âne en fait, hein, qui est un âne qu'il a acheté au départ et qu'il a revendu à l'arrivée. Ça s'est pas très bien passé, en fait. Je crois que Stevenson n'avait aucune patience avec cette pauvre Annès et qu'il l'a bougrement battue et que l'Annès en a fait un peu casse à tête et ce qui s'est énervé. Mais il a fait un joli voyage et ses talents d'écrivain font qu'aujourd'hui, on peut prendre avec un âne le chemin de Stevenson qui est balisé dans les
Cévennes.
C'est
ça, comme un voyage un peu raté peut faire un bon livre et finalement rendre...
On a du talent d'écrivain, on peut tout faire.
C'est tout le talent de l'écrivain. Allez, une dernière histoire, pour finir peut-être une histoire d'amour entre un éléphant et une éléphante. C'est Hans et Parky qu'on a fait venir en France, là aussi. Et le voyage a été particulièrement compliqué.
Alors d'abord, on les a volés. On est juste après la Révolution française et les troupes révolutionnaires françaises vont aller donner un coup de main aux troupes révolutionnaires hollandaises. Elles vont un peu mettre la main sur le pays et à leur suite vont arriver les savants français. Parce que les collections des princes de Hollande, grâce à leurs nombreux comptoirs, font très envie à nos savants. Et ils vont donc aller voler l'ensemble, sous prise de guerre, enfin sous prétexte de prise de guerre, voler l'ensemble des collections qu'ils connaissent, hein, parce qu'évidemment, à l'époque, les savants voyagent beaucoup, et ils vont donc tout prendre, plus Hans et Parky, qui sont deux éléphants. Mais autant ramener des os, des fossiles, c'est pas très compliqué, ramener deux éléphants, c'est excessivement compliqué. Il faut les faire voyager chacun dans un wagon, enfin dans un chariot différent, et Hans et Parky, qui n'ont jamais été séparés, ne le supportent pas. Donc à peine Hans est-il installé dans le chariot qu'il le fait exploser pour rejoindre sa belle. Et à partir de ce moment-là, commence l'histoire qui va se raconter, cette histoire d'amour entre Hans et Parky. Il va y avoir besoin de 3 essais avant de parvenir à les maintenir dans leur box, dans leur chariot, pour les ramener jusqu'en France. Et effectivement, toute la presse va toujours parler du couple Hans et Parky. Un couple auquel s'intéressent énormément les scientifiques et surtout Buffon, parce qu'à l'époque, on ne sait pas comment les éléphants copulent. On imagine en fait qu'avec autant d'amour, au fond, ils doivent copuler en se regardant, j'ai envie de dire, les yeux dans les yeux, un peu à la manière des humains, et non pas à la manière des quadrupèdes. Et Buffon va attendre désespérément d'attendre désespérément la maturité sexuelle de
des
Hans.
Deux éléphants,
surtout de Hans, en fait, qui commence à avoir quelques velléités. Mais malheureusement, Hans ne survivra pas et mourra avant d'avoir pu honorer sa belle.
Pourtant, dans votre livre, on voit quelques gravures, justement, d'éléphants. On imagine comment pourrait être leur position.
Ben, si vous les regardez, ils sont face à face.
Oui, ils sont face à face,
effectivement. Ils sont face à face. Parce qu'à l'époque, on imagine que ces animaux copulent face à face.
Ouais, on croit à l'amour.
À l'amour fusionnel.
À l'amour fusionnel.
En regardant le blanc dans les yeux.
Chez les éléphants.
Exactement.
Pourquoi vous avez écrit ce livre, Jean-Philippe Noël? L'idée, c'était de nous amuser avec ces petites histoires où derrière, il y avait aussi cette idée de peut-être un peu remettre à l'honneur ces animaux et puis aussi se remettre en cause, nous, un peu sur ce qu'on leur fait faire parfois.
L'idée première, c'est... ça fait très longtemps que je travaille sur le sujet des animaux et c'est de rappeler aux gens qu'il n'y a pas d'histoire humaine sans animaux. C'est-à-dire que la première chose que les hommes vont représenter sur les cavernes, ce sont des animaux. On parlait des animaux qui nous ont accompagnés dans la guerre, on parle des animaux que l'on mange, on parle des animaux qui nous servent dans nos recherches scientifiques. L'animal est partout présent et pourtant les historiens ont mis des années à s'intéresser à la place de l'animal dans l'histoire. Ça date juste en gros d'il y a une dizaine, quinzaine d'années.
Je vous présente notre invité de la deuxième heure, Cédric Gras. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, géographe, passionné par la Russie. Des histoires d'animaux célèbres en Russie, vous en connaissez? Ou je vous colle si je vous demande ça?
Ça ne vient pas à l'esprit là, c'est une colle. Ouais.
C'est une colle. Bon, on aura d'autres choses à se raconter dans la suite.
Enfin, à part Laïka qui est partie dans l'espace.
Ah ben voilà,
c'est déjà pas mal.
On en parlait effectivement en première heure de Laïka. Vous, votre passion pour la Russie vous a fait voyager et même au-delà du continent eurasien, vous êtes allé sur un brise-glace russe jusqu'en Antarctique et vous y seriez allé quand même sur ce brise-glace et sur ce continent s'il n'avait pas été russe?
Ah oui, bah de toute façon, il n'est pas plus russe que français qu'américain, on en parlera tout à l'heure j'imagine, mais oui, bien sûr, c'était un des continents qui me faisait rêver et qui fait rêver tous les voyageurs.
Vous allez évidemment nous raconter tout ça, vous publiez La mer des cosmonautes, Cédric Gras aux éditions Paul Sen. Merci à vous, Jean-Philippe Noël. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Ces animaux qui font l'histoire. C'est aux éditions de La Chaux et Niesley. Merci.
Merci, Daniel.
Risquer sa vie pour des humains, faut vraiment être bête.